Merci d'écouter Fréquence Mistral. En direct depuis les nuits photographiques de Pierre Vert avec François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Effectivement, comme chaque année, nous sommes en direct de ce magnifique festival dédié à l'image dans les Alpes du Sud. Les nuits photographiques de Pierre Vert et évidemment à tout seigneur, tout honneur, c'est le président des nuits photographiques que j'accueille en premier. Bonjour Stéphane Kosman.
Bonjour François, merci de nous accueillir ici en direct depuis la salle polyvalente de Pierre Vert.
Et on va vous entendre jusqu'à Briançon, par exemple.
Donc, bonjour à tous nos amis de Briançon et tout le département.
Stéphane, on a craint aujourd'hui parce qu'il pleut, donc il y a un petit changement de programme, il faut l'annoncer, il faut le dire.
Il faut le dire. On l'a annoncé hier soir à la projection. Nous avons été obligés, avec François-Xavier Emery, le directeur artistique, de prendre cette décision de tout démonter, la magnifique projection d'hier soir en plein air où on est sous le charme hein, quand on voit ces images en 4x6 dans la nuit de l'été comme ça, mais il a fallu tout démonter pour il y aura une projection à 20h et une deuxième projection à
même projection.
Et c'est la même projection.
À 20h30, nous dit Henri Kaufmann, attention.
Voilà, hein. Nous on a droit à des petites erreurs. Hein, on a un cerveau qui est un petit peu free, là.
Vous êtes dispensé de venir avec votre parapluie et votre kawé, puisque ce sera à la salle polyvalente et en tout honneur, ce sera un bon moment. 20h30 pour la première projection et je suppose 21h30 pour la deuxième, c'est ça ?
22h,
pardon.
On va y arriver.
Décidément. Bon, voilà. Si vous n'avez pas compris, c'est pas très très grave. Vous savez que ce festival,
si les personnes arrivent en avance ou en retard, il y a une buvette qui est là et qui vous accueillera volontiers. Voilà.
Ça nous permet de rappeler que Pierre Vert, c'est quand même la capitale du vin dans les Alpes de Haute-Provence et que ça vaut le coup, évidemment, avec modération, de goûter tous ces nectars magnifiques. Stéphane, bien, tu vas m'accompagner pendant toute cette émission, comme chaque année. Tu vas également servir de traducteur. Je sais que tu adores ça. Et en même temps, il y a d'autres invités qu'on va accueillir. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir, il est à mes côtés, Roch Domérego, qui vient tout juste de terminer sa conférence. Bonjour, Roch.
Bonjour à tous.
Alors, Roch, c'est un ami de la radio également, et c'est un basalpin. Vous venez de parler, Roch, de Mélipona, de ces abeilles mayas. Alors, si j'ai bien compris, ce sont des abeilles gentilles.
Alors, ce sont des abeilles gentilles. Elles n'ont pas de dard. Elles ont les yeux bleus et elles sont comme toutes les abeilles autour de la planète. Mais celle-là, plus particulièrement, parce que sans cette agressivité que l'on pourrait considérer comme agressivité due au dard et au venin, eh bien, elles sont très différentes, toutes douces, oui, c'est vrai. Et les mayas les considèrent comme le dieu de la vie.
Hein. Alors, elles ont accompagné le dieu de la vie pour sa descente sur Terre, mais il est descendu pas en position de siège, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Le dieu de la vie a amené la vie, mais il est arrivé tête en bas, c'est-à-dire qu'il arrivait pour les Mayas, il arrivait du cosmos, c'est le dieu le plus haut dans leur cosmogonie, c'est-à-dire dans leur croyance, et il est arrivé de l'extérieur de la planète vers la Terre avec lui ses abeilles pour le représenter.
Donc une relation particulière avec les abeilles, entre les Mayas, qui datent depuis déjà des millénaires. Est-ce qu'elles sont aussi menacées qu'ici notre abeille noire, par exemple, l'abeille noire de Provence ?
Ah oui, non, c'est très différent. Je crois que l'abeille noire de Provence a des menaces qui sont dues évidemment à l'agro-industrialisation à outrance, ça c'est le premier point, mais aussi à des pratiques apicoles qui font qu'on importe des abeilles de tous les coins du monde et qu'on a ce qu'on appelle une pollution génétique par rapport à notre abeille locale et qui est dangereuse pour elle, oui.
C'est votre spécialité, les abeilles. C'est vrai ce qu'on dit, que si elles disparaissent, l'humanité disparaîtra après ?
Oui, en fait, il faut bien voir ça, même si on ne sait pas si c'est vraiment Einstein qui l'a dit ou pas, ce n'est pas le sujet. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'abeille a 60 millions d'années de présence sur notre Terre. 60 millions d'années, ce n'est pas 5 minutes, quoi. Et si elle venait à disparaître, c'est pas tellement qu'elle polliniserait plus ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a un dérèglement tellement grand sur la planète, puisqu'elles ont réussi à survivre à tous les bouleversements pendant 60 millions d'années. Si elles disparaissaient, c'est que le bouleversement serait tellement immense que l'humanité n'aurait plus grand chose à vivre et ne pourrait plus vivre sur une planète si bouleversée. Je crois que c'est plus ça que ça veut dire, plus que la notion de la pollinisation.
On va reparler photographie, si vous voulez bien, parce que vous êtes ici dans un festival de photographie et on a pu bénéficier et profiter de vos superbes photos. On plonge à l'intérieur d'une ruche de Mélipona, c'est ça ?
Oui, alors la qualité, c'est aussi que les chamans ont accepté de m'ouvrir leur cœur, puisque en ouvrant ces ruches, ils ouvraient vraiment leur cœur. Et là, j'ai pu, après beaucoup de temps, de relations avec eux, j'ai eu la chance de pouvoir photographier ces abeilles de très près. Elles sont plus petites que les nôtres, mais voilà, ça donne des clichés qui sont avec aussi de l'émotion, pas simplement technique ou historique. C'est aussi des clichés qui se veulent émotion avant tout, quoi.
Ce sont de belles images, sinon vous ne seriez pas sélectionné ici même à Pierre Vert, vous le savez. Qu'est-ce que c'est la photo pour vous ? Qu'est-ce que ça représente ?
La photo, c'est une image qui a un début, une fin et qui vous raconte une partie de vous-même à l'intérieur de ça, qui vous fait découvrir des facettes de vous que vous ignorez ou que vous ne vouliez pas rencontrer. C'est un film en une image. La photo, c'est le concentré de vie et d'émotion. C'est aussi une ouverture de conscience et c'est souvent un message d'ouverture de conscience. C'est un art à part entière.
Et à partager ?
Et à partager obligatoirement. Ouais.
Donc c'est votre cas ici à Pierre Vert et d'avoir parlé si magnifiquement des abeilles et donc de Maya, l'abeille et des abeilles de Maya. Évidemment, je ne pouvais pas la louper. Roch, vous restez avec nous. On va parler
volontiers.
Aussi photographie, évidemment, avec quelqu'un qui est en train de dessiner sur la table. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Une abeille.
Bonjour, c'est Sandra. Sandra Rinflet qui dessine et qui a une sensibilité très, très particulière. Sandra, si vous êtes ici à Pierre Vert, ce n'est pas pour dessiner des abeilles, mais c'est pour parler de votre approche de la photographie et vous présentez actuellement à la chapelle Saint-Patrice à Pierre Vert une exposition où des artistes contrariés dans leur pays essaient de trouver leur voix, V-O-I-E, et en même temps essaient aussi de donner de la voix, V-O-I-X. Expliquez-nous votre démarche.
Je suis allée dans des pays où l'art est contraint pour différentes raisons, donc des raisons religieuses, économiques, politiques ou géographiques, et je me suis demandé comment vivre en tant qu'artiste et comment déjà décider d'être artiste alors qu'on sait pertinemment qu'on aura du mal à gagner sa vie, voire même qu'on risquera la censure, la prison pour certains pays. D'où naît la vocation dans des contextes comme ça. Je suis allée en Iran, en Mauritanie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Madagascar pour l'instant. Et je leur ai posé la question de la vocation d'abord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te consacres à l'art dans un pays où c'est la charia, dans un pays où il n'y a pas de galerie d'art, pas de salle de spectacle, où il y a une forte censure politique ? Ils m'ont raconté ça. Et ensuite, on a ensemble imaginé une image mise en scène pour illustrer la place qu'ils occupent dans leur environnement. C'est-à-dire que c'est difficile de vivre de l'art. Et en même temps, ils y arrivent quand même. Donc, ils sont un peu à la fois perdus dans le décor et en même temps au centre. C'est ce qu'on a essayé de construire dans les images.
Comment est-ce qu'ils ont vécu votre fréquentation et la façon dont vous en parlez, justement ?
Alors ça, faudrait leur demander. J'espère
qu'il y a eu certainement des réactions.
Bien sûr. Il y a même des gens qui ont postulé, c'est pas le bon mot, mais qui m'ont contacté pour faire partie du projet. En Mauritanie et à Madagascar, j'étais en résidence à l'Institut français. Donc, c'était l'institut qui a trouvé les artistes. C'était des pays où il n'y a pas de risque pour les artistes. C'est difficile d'en vivre parce que à Madagascar, le niveau de vie est si bas que l'art est la millième priorité. Et puis, en Mauritanie, c'est la charia, c'est-à-dire la loi islamique, qui décide ce qui est permis ou pas permis. Donc, par exemple, on ne peut pas créer d'ombre parce que ça appelle les esprits mauvais, donc on ne peut pas faire de sculpture, en théorie. Mais ce n'est pas un pays où on risque la prison pour ça. On risque davantage la pression sociale. En revanche, en Iran, quand j'ai contacté l'Institut français, on m'a dit c'est pas possible, on peut pas s'associer du tout au projet. Il y a le mot artiste sous contrainte dans la première page de votre dossier. Diplomatiquement parlant, c'est pas possible du tout. Donc faites attention à vous et faites attention à eux. Donc moi, j'avais aucun contact là-bas. J'ai mis un message Facebook, les réseaux sociaux pour ça, c'est assez fantastique. Et j'ai reçu 100 mails de gens, d'amis, qui avaient entendu parler du projet et qui m'ont dit, on a envie d'en être, on a envie d'être mis en lumière, mis en scène. Et ce qui était dur en Iran, c'était de choisir les artistes, alors que dans d'autres pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'était de les trouver, hein, qui était compliqué. Et je me suis dit que oui, ces artistes avaient très envie d'être vus, d'être entendus, d'être mis en scène.
Et par exemple, en Iran, vous avez trouvé une danseuse, mais qui ne danse pas. Expliquez-nous ça.
Alors, c'est pas une danseuse, c'est une metteuse en scène qui fait danser des gens. Et la danse, c'est interdit, hein, donc en Iran.
C'est un mot défendu.
C'est un mot et un acte défendu en théorie, voilà. Et elle s'est fait arrêter quelques fois. Son père était un opposant politique qui a été tué en prison. Elle fait ça par l'art, sa rébellion, si on peut dire, donc plus en douceur. Mais quand même, au bout d'un moment, elle a demandé l'asile politique au Canada. Elle est partie 6 ans là-bas. Et là, elle était dans un théâtre subventionné, formidable, confortable, disons. Et elle s'est dit, mais ça sert plus à rien ce que je fais. Je fais du théâtre pour faire joli, je fais de la danse pour faire joli. Alors elle est revenue en Iran, parce que là, elle a la sensation de vraiment changer les choses. Et elle fait encore danser des gens. Donc moi, je lui dis, mais comment tu fais, Mina? Qu'est-ce que tu risques quoi? Et elle m'a dit, ah, mais maintenant, je ne fais plus de la danse, je fais du mouvement harmonieux. Il y a un mot en farsi pour dire ça. Et c'est ce qui rassemble tous ces artistes, en fait, dans chaque pays. C'est qu'il y a une contrainte forte et complexe. Et ils pourraient s'y arrêter, se dire, c'est pas possible de créer ici, on peut pas en vivre, on est trop censuré. Mais eux choisissent au contraire de trouver leur voie, c'est-à-dire de s'inspirer de la difficulté pour créer. Et tous décident de rester. Parce que ces artistes pourraient, je pense au sculpteur mauritanien, il a été exposé à Dakar, à Dubaï, ils pourraient partir. Mais ils choisissent de rester parce que c'est des résistants, c'est des gens qui ont l'impression d'avoir un rôle bien au-delà de l'art, un rôle social et un rôle politique.
Il y a des situations de misère aussi terribles. Ce photographe à qui on a volé son matériel et qui est obligé, dans un studio de fortune, hein, il faut voir cette installation particulière, de photographier uniquement avec son portable, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, mais pas des photographes professionnels. Et puis, il y a ce pianiste en Papou qui, lui, se produit dans des hôtels alors qu'il est compositeur et qu'il aimerait vivre de son art et de sa création.
En fait, en Papouasie, il n'y a aucune galerie, aucune salle de spectacle. C'est difficile à concevoir pour nous, il y en a zéro. Donc les peintres vendent leurs toiles sur les parkings de supermarchés. Tu as fait tes courses, acheté du coca et des pâtes, et tu sors et tu peux aussi acheter une toile pour faire joli. Donc c'est de l'artisanat en fait, c'est de la décoration. Le concept d'art contemporain, d'investissement de l'œuvre, même juste l'œuvre, ça n'existe pas. Et pour les musiciens, on veut bien de la musique, mais soit traditionnelle, donc dans les cérémonies, il y en a beaucoup, mais c'est de la musique qu'on reproduit, un geste qu'on reproduit, pareil, une sorte d'artisanat. Et la musique contemporaine, c'est comme un CD. Donc, par exemple, ce pianiste qui s'appelle Buru Katao, qui a tourné en Australie avec beaucoup de groupes d'Océanie, mais a décidé de rentrer chez lui, eh bien, n'a pour seule scène aujourd'hui que le hall d'un hôtel où on lui demande des Beatles, quoi. On veut des reprises, les clients veulent des musiques qu'ils connaissent déjà, c'est de la berceuse, c'est pas de l'écoute. Et du coup, lui, je l'ai photographié dans un stade vide, dont les marches sont blanches, parce que ça me rappelait un clavier sans les touches noires, comme s'il était amputé d'une partie de son instrument.
Ce sont des photos à voir, des photos qui sont mises en scène aussi particulièrement pour exprimer cette voix VOX. Et vous, Sandra, c'est une exposition qui roule, qui tourne un petit peu?
C'est un travail en cours, en fait. Ça fait 3 ans que je...
Oui, tout à l'heure, vous avez dit pour l'instant, d'ailleurs.
Pour l'instant, ouais. Parce que des pays sous contrainte, il y en a moult.
Hélas.
Voilà. Donc, et puis ça change, et il y en a de plus en plus. Voilà, j'avais pas prévu d'aller au Brésil, par exemple, au départ de ce projet. Et puis maintenant que Bolsonaro a supprimé le ministère de la Culture, je pense qu'il faut que j'y aille. C'est une expo que j'ai présentée, du coup, pour partie, dans les pays où je pouvais, déjà, l'exposer. Je l'ai présentée en Mauritanie et à Madagascar, dans les instituts français. Parce que pour moi, c'est important aussi que les artistes participent. C'est un peu lointain et un peu abstrait de savoir que j'expose en France à Pierre Vert. Ça leur fait plaisir de voir ça sur Facebook. C'est vrai, ils le voient avec Internet quand même, qu'on diffuse leur travail. Mais chez eux, c'était important. Et puis, c'est en ce moment aussi à Oulgat. Si jamais vous allez faire un tour dans le Nord, il y a des grands tirages sur la plage jusqu'au 1er septembre.
À voir. Et puis, si vous voulez écouter Sandra Rinflet tout à l'heure, elle sera encore ici à la salle polyvalente. C'est à 17h, Sandra?
Oui, je crois que j'ai bien choisi mon jour. Hein. Il pleut, du coup, je reste là. Venez.
Oui, bien au chaud, tranquille et à l'abri, sans caouet. C'est pas la peine. Merci beaucoup, Sandra. Et puis, bravo pour cette démarche qui me semble aller dans le bon sens au niveau artistique, évidemment, et sociale et solidaire.
Merci beaucoup.
Et donc ça, c'est une bonne chose. Plusieurs invités sont là. Alors, on va peut-être demander à Stéphane, pendant que Camilo va nous rejoindre et va remplacer peut-être Roch, en vous remerciant, Roch, de votre intervention.
Au revoir à tous.
On va parler avec Camilo de son travail très particulier. Stéphane, chaque année, les nuits photographiques de Pierre Vert nous permettent d'avoir des artistes comme Sandra, par exemple, ou Roch, des gens qui ont beaucoup de choses à dire et qui profitent de cette tribune ici-là.
Chaque année, on a effectivement pas mal de photographes qui sont avec nous. Et on a chaque année un artiste en résidence. Tu peux très bien en parler, puisque Louay Baraka, je te laisserai développer où il en est, puisqu'il il a intégré, tu m'as dit, l'agence
Cipa Presse.
Ouais. Voilà. Donc Louay était notre artiste en résidence l'an dernier. Cette année, on accueille Elmore Demotte. Elmore, que j'ai rencontré au cours d'un voyage où je fais une recherche personnelle, une recherche photographique. Elmore habite à Montgomery, en Alabama. Et durant mes différents voyages là-bas, elle m'a ouvert sa maison, elle et son mari. Et Elmore a un travail très particulier sur les fleurs. Et elle est photographe, elle ne fait pas que des photos de fleurs. Elle va vous en parler et on va essayer de traduire. Elmore est donc notre artiste en résidence cette année.
Juste un petit mot avant de parler de ses fleurs et de sa démarche. Elmore, Montgomery, c'est une ville à part aux États-Unis, particulière. Ça parle à tous les gens qui défendent les droits humains, notamment. C'est là où de grandes marches ont été organisées dans les années 60, où des gens comme Rosa Parks, Martin Luther King, etc. se sont illustrés. Et on a besoin de personnages de cette envergure à l'heure actuelle, et notamment aux États-Unis.
Oui, Martin Luther King a donné un de ses plus grands discours devant I'm so bad this morning.
Il est fatigué, c'est normal, on est à la fin du festival.
Après la troisième marche, puisqu'il y a eu trois marches de Selma à Montgomery, hein, il y a 54 miles. Et Martin Luther King, qui n'a pas pu rentrer dans le bâtiment officiel, a prononcé un de ses plus grands discours là à Montgomery, avec évidemment toute la population activiste de l'époque. Je pense à John Baez qui fait sa dernière tournée
actuellement,
qui sera à Carcassonne le 31 juillet. Donc c'est ainsi pour les personnes qui voilà. Donc tout ça, bon voilà. Elmore, you only have to speak now because I'm so afraid, you know.
Well, it is an honor to be the artist in residence in Pierre Vert.
Voilà, c'est un honneur d'être l'artiste en résidence à Pierre Vert cette année.
I was here in June to add flowers to my collection that is called Flowers for Mom.
J'étais ici au mois de juin pendant une dizaine de jours pour augmenter ma collection de photos de fleurs.
For almost 3 years, I have been photographing a flower a day to honor my mother's Alzheimer's journey.
Depuis presque 3 ans, je photographie une fleur par jour pour honorer la maladie de ma maman qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer.
And at the same time, it celebrates nature, which is why it was such a pleasure to come and photograph flowers in France.
Et en même temps, c'est pour honorer aussi la nature, et c'est pour ça que j'étais très heureuse de venir ici dans le sud de la France pour faire cette démarche photographique.
Through nature, we can see the cycle of life that is the same as with people, such as my mother. So there is beauty in every phase.
Et c'est là que tu m'aides. À travers la nature, on peut photographier le cycle de la vie. And this is how I...
Dont on peut apprécier chaque étape. À travers le cycle de la nature, en fait, ça fait écho au cycle humain. Et
Je n'ai plus de micro. Voilà.
Ça y est, c'est revenu.
Voilà, parce qu'on va être plusieurs à traduire. Parce
on
que...
fait des traductions collectives. Voilà. C'est...
c'est bon. Alors, il y a une approche, Stéphane, avec Elmore. Elle a un sens très aigu de la nature, pas uniquement les fleurs. D'ailleurs, il y a aussi des coccinelles, il y a des animaux, des insectes, des brins d'herbe qui peuplent ces photos. Et c'est en ce moment accroché au jardin de Jeannette. Alors, ça tombe très, très bien parce que c'est vraiment l'endroit idéal pour ça. Et c'est sur un support particulier.
Tout à fait. On a la chance d'avoir dans notre équipe Robert qui réalise toute la signalétique et qui aussi fabrique nos expositions, notamment celle de Marco Glaviano qui est au golf. Pour les photos d'Elmore, on a choisi aussi sur une idée d'Henri d'accrocher ces images comme si c'était du linge qui était en train de sécher. Donc, et Robert nous a proposé une matière, une bâche perforée, et qui est à la base plombée avec un fil de pêche. Donc, ces images sont dans le jardin de Jeannette, comme ça, et elles flottent au vent. C'est assez magnifique.
Elles sont translucides en plus, c'est-à-dire voilà, qu'on voit derrière les maisons ou les arbres.
Et Elmore, elle est vraiment très, très, très contente de cette réalisation. You're happy with the setup, right?
It's beautiful, and it's perfect for the series because of how it connects with the garden.
Elle me dit que c'est parfait pour cette série parce que ça connecte avec le jardin, qui est un jardin partagé, et elle en est très, très heureuse. Je souligne que deux associations se sont associées au travail d'Elmore, hein, Sauvons les coquelicots et
les grelinettes.
Les grelinettes, voilà, merci. Hein. Et voilà, on est très contents puisque on m'avait demandé de donner un espace à ces associations pendant les nuits photographiques. Et du coup, ça a rebondi et j'ai dit, voilà, Elmore est là et ça a fait du sens.
Et elle a également participé à une élaboration particulière de cette exposition qui malheureusement a été décrochée aux Écuries du Rioux. Avec un travail dont nous allons avoir les responsables tout à l'heure ici.
Voilà, tout à fait. Le off qui se développe vraiment, ça faisait partie de la vision du départ, c'est que il y ait un festival photo à Pierre-Vert, mais qui est aussi que Pierre-Vert devienne un village de photographie. Non seulement Pierre-Vert a un off, mais maintenant Montfuron aussi a un off. Donc tout ça fait partie de la vision de l'équipe de départ, quoi.
Et c'est une bonne chose, c'est une bonne évolution, et en même temps, ça permet des expressions différentes aussi. On en aura l'illustration dans un instant. Merci beaucoup, Elmore, et puis bon séjour. J'espère qu'à Pierre-Vert, on vous a bien accueilli pendant votre mois de résidence au mois de juin.
That he hopes that you are very well welcome here in Pierre-Vert.
Thank you, it's been wonderful.
Pas besoin de traduire, on a très bien compris. Merci beaucoup Elmore, à bientôt. Il nous a rejoint Camilo, alors c'est Camilo, il a un nom difficile à prononcer pour moi, vous le savez. Et si vous le prononciez, cher ami?
Léon Quijano.
Voilà, bon, pour moi ça va être Camilo. Vous êtes d'origine colombienne, Camilo. Vous avez proposé une exposition assez remarquable, parce qu'il y a une approche évidemment sur la place des femmes dans notre société, sur la place aussi de des banlieues, notamment à Paris. Vous avez travaillé sur une équipe de rugby, équipe féminine de rugby à Sarcelles. Expliquez-nous votre démarche.
Bon, alors l'idée de ce projet, en fait, je vais vous expliquer un petit peu comment je suis arrivé là. Je fais un doctorat en sociologie à l'École des études en sciences sociales. Dans ces cadres-là, je dois étudier ce qu'on appelle un terrain. Mon terrain, c'est Sarcelles, la ville de Sarcelles, et comment l'image s'est construite dans cette ville. Et depuis 2015, pendant 3 ans, j'ai photographié cette ville. Et donc, les habitants, certaines me connaissent. Et du coup, ils m'ont dit que le coach Florian de cette équipe féminine du collège Chantraine m'a dit: ouais, Camilo, ça te dit de faire des photos de l'équipe? Et j'ai dit avec grand plaisir. Donc, en 2017, à peine un an, j'ai photographié leur quotidien. Pour moi, l'objectif, c'était de comprendre le quotidien d'un groupe de jeunes femmes qui jouent au rugby et du coup l'impact qu'il y avait en sport quotidien, en fait. Il n'y a rien d'exceptionnel dans leur vie, en fait. Trouver un peu ces caractères exceptionnels dans le quotidien.
Alors quand même, de caractère quotidien, c'est des femmes qui jouent au rugby. Déjà, ça, c'est assez particulier. Même si l'équipe de France de rugby, d'ailleurs, a un très bon rang au niveau mondial. Oui. Elle est troisième, me semble-t-il, et avec des joueuses magnifiques. Là, ce sont des jeunes filles. Donc, elles ont entre 14 et 17 ans, c'est ça?
Oui, plus ou moins. Ouais. 15, 16 ans, oui.
Elles sont toutes de couleur noire.
Oui.
Donc, on imagine aussi, en région parisienne, combien ça peut être difficile, le regard des autres, le regard notamment des garçons, des hommes. Et le fait de jouer au rugby, c'est pour elles une manière de s'imprimer dans la mémoire des gens.
Alors disons que le cadre dans lequel se développent ces projets, c'est Sarcelles. Sarcelles qui est une ville où la population est entre guillemets racisée. En fait, on trouve peu de population blanche en général dans la ville. Et donc, disons que démographiquement, la population que j'ai photographiée, c'est aussi représentatif d'une certaine population qui vit dans la ville. Et donc, cette particularité qu'elles sont toutes de peau noire, ça reflète une certaine réalité locale. Mais après, ce que je voulais vraiment comprendre, c'était un peu sortir de certains clichés qui existent sur les banlieues en général et sur Sarcelles en particulier, un imaginaire qui est fondé sur on va en banlieue, on va photographier les jeunes, la violence, la drogue, la dureté de la vie. Et en fait, c'est pas que ça n'existe pas, mais il y a une panoplie des choses à voir tellement plus riches qu'il me semblait important d'aborder un sujet qui est quotidien. En fait, c'est la vie des femmes, des jeunes femmes au sein d'une équipe du collège pour comprendre au plus près la manière dont elles interagissaient. Donc c'était l'objectif.
Alors, on entend dans votre reportage sur cette période particulière dans ce collège, on entend des commentaires très vivants et vivifiants en même temps de ces jeunes filles et de leur coach. Et puis, évidemment, on a les photos. Alors là, les photos, elles sont magnifiques parce qu'il y a du mouvement. Évidemment, c'est un sport de mouvement. Et puis, il y en a une, moi, qui m'a marqué, évidemment, et qui a dû marquer, je pense, tous les spectateurs. C'est quand une rugby woman se fait attraper par les cheveux assez longs. Et ça se voit pas sur un terrain de rugby, mais ça se voit dans un collège, par exemple. Et disons qu'il y a un côté humoristique, mais tout se passe bien dans l'équipe. Hein,
Oui, alors ça, c'était une scène un peu particulière. Évidemment, ça, c'est pas très réglo au niveau professionnel. Ça se passe, bon, disons que c'est pas... Mais en fait, moi, cette photo, je la trouve intéressante. Pourquoi ? Parce que, bon, évidemment, c'est pas réglementaire. Mais ce qui m'intéressait, c'était de montrer l'engagement, en fait, corporel de ces filles. Bon, c'est une équipe de collège. Et ça peut arriver. En fait, c'était vraiment dans la vivacité du jeu, dans cette énergie qu'elles déploient, que ces moments arrivent, quoi. Mais après, et j'étais dit, ouais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et après, elle a dit, bah non, ouais, excuse-moi. Et ça se passait bien, en fait, là.
Alors on imagine une légende photo du genre, toi, tu vas pas passer, quoi.
Oui, voilà. C'est ça, quoi. C'est... Et l'idée, c'était, moi, je vais tout faire pour que tu passes pas et tu vas pas marquer. Donc, l'idée, c'était de montrer cet engagement. Moi, le plus important, c'était de montrer à partir d'un regard, justement un mouvement, en fait, avec le noir et blanc aussi, que c'était un choix pour mettre en valeur cette force et une chose qui souvent est minimisée dans les reportages ou dans les sujets qui traitent sur le sport féminin. Enfin, cette question de la force, en fait, elle dépend une force et un engagement sportif très fort. Et bon, cette photo, disons que rentre dans cette catégorie de comment s'engager. Et peut-être, bon, là, ça montre justement un engagement qui va au-delà des simples règles du jeu.
Vous avez projeté votre travail aux collégiennes?
Oui, en fait, mon projet rentre dans ces cadres d'un doctorat. Et pour moi, l'objectif du début, en fait, on avait fait un sort de contrat. C'est avant de diffuser ça dans les médias, et je l'ai diffusé vraiment largement, je vais vous montrer le travail. Du coup, on a fait des séances d'editing ensemble. Les prises de sang, c'est elles qui les ont faites. J'ai appris à faire des prises de sang. Elles ont fait des prises de sang dans le cadre de leur quotidien. Et après, moi, j'écoutais, je sélectionnais des parties. Et après, j'ai fait des entretiens également. Et après, l'autre partie importante, c'était l'exposition. On a prévu une exposition en format assez géant. Il y avait des photos en 3 mètres par 4 qu'on a collées tout autour du collège grâce à un financement que j'ai eu de l'Association américaine d'anthropologie. Et du coup, j'ai fait une grande expo avant de montrer à tout le monde, enfin publiquement, j'ai fait une grande expo avec 23 photos collées sur les murs du collège. Une première, ça n'avait jamais été fait. Et donc, on a fait un vernissage, on a invité les Sarcellois, on a invité les mamans, on a invité les parents. C'était un vrai moment de partage. Les profs, ils étaient très émus, c'était un moment assez fort. Et après ça, j'ai commencé à faire une diffusion plus large dans des festivals, des prix, des médias.
Camilo, vous destinez à la sociologie, la photographie, ça peut être un outil pour faire avancer les choses.
Oui, en fait, c'est ce que je fais. En fait, je développe une branche de la sociologie qui s'appelle sociologie visuelle. En gros, c'est comment utiliser l'image pour étudier le social. Et du coup, dans ces cadres-là, moi, je produis des photos, j'analyse des photos. Et la photographie, c'est un outil, mais la photographie, c'est aussi un objet. C'est pas uniquement vraiment un instrument pour étudier la société, mais c'est l'objet même de l'étude du social. Et donc voilà, c'est ce que je réalise.
Votre travail a été projeté, les rugby women, plaquer les stéréotypes. Vous avez, je suppose, été très attentif aux réactions dans le public.
Oui, bien sûr. Bon, déjà, au moment du vernissage, au moment des rencontres avec les Sarcellois qui ont été assez fiers du travail parce que c'était montrer vraiment la ville sous un angle un petit peu différent, avec un engagement aussi personnel qui était un peu différent. Et sachant aussi que moi, je suis colombien et que j'ai un regard aussi un peu décalé par rapport aux stéréotypes qui existent sur la banlieue. Donc ça, c'était la première réaction. Et après aussi les réactions médiatique, j'ai eu plusieurs prix avec ce travail, notamment le prix Paris Match où j'avais été invité à la mairie de Paris, à l'hôtel de ville. On avait invité certains mamans, certaines joueuses, et du coup c'était un moment assez fort de se voir dans cet espace incroyable, remettre le prix. Enfin, c'était un moment assez fort aussi de partage avec elles.
Et à Pierre Vert, les réactions?
C'était aussi très positif. Et surtout, moi, je suis aussi content de pouvoir le diffuser dans des espaces assez différents et avec un public aussi bienveillant et assez accueillant comme les Pierre Verdant. Pierre Verdant,
voilà. Cher Camilo. Merci encore de votre présence. Et c'est l'une des projections marquantes. Enfin, je ne suis pas membre du jury, vous le savez. J'ai aucun impact là-dessus. Et d'ailleurs, en parlant du jury, on va écouter justement le président du jury, Jean-Pierre Castaldi, qui est un ami de Stéphane Kosman, qui était venu faire une belle interview à la radio, Stéphane, avec Jean-Pierre. On avait la possibilité. Oui, c'est Olivier qui est aux manettes là.
Alors deux cafés là pour les messieurs.
Stéphane, donc.
Non, je voulais juste dire revenir sur Camilio. C'est drôle parce que j'étais au lycée à Sarcelles moi. Donc, il y a quelques années.
Mais tu jouais au basket, pas au rugby.
Oui, je jouais au basket. Oui.
Et dans le rayon masculin. Hein.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait. Et je pense très sincèrement que le prix du public cette année, je m'avance pas.
Mais, oui, mais toi non plus, t'es pas dans
moi,
le jury.
Moi, je suis pas dans le jury non plus. Donc, je suis public, bon, moi. Hein,
donc, ouais. Voilà. Moi, c'est pareil. Hein, je suis dégagé. J'ai pas aucune responsabilité.
Vu la réaction du public, à mon avis, il y a de grandes chances. Ouais.
On va écouter justement Jean-Pierre Castaldi, qui a fait une prestation assez incroyable ici à Pierre Vert, en contact avec tout le monde.
Il fait le job.
Oui, c'est ça,
Il fait le job, il parle avec tout le monde, il boit des coups avec tout le monde, il se fait prendre en photo avec tout le monde. Et puis, il a son franc-parler. Hein,
évidemment. Et puis, moi, j'ai demandé à Jean-Pierre Castaldi ce qu'était la photo pour lui. Et figurez-vous qu'il nous a fait quelques confidences personnelles. On va l'écouter tout de suite et puis on se retrouve après. Jean-Pierre Castaldi, vous êtes présent à Pierre Vert. Qu'est-ce que c'est que la photo pour vous?
La photo, c'est un instantané, c'est un moment de vie. Vous savez, il y a cette magnifique photo de deux personnes qui s'aiment, qui s'embrassent, qui est une photo qui a fait le tour du monde. Je pense que c'est le résumé de la photo, d'un moment de vie. Ça peut être l'amour, ça peut être la guerre, quand on voit une petite fille comme ça, les deux bras, c'est en un millième de seconde, capter la vie. Voilà. Capter le beau, capter l'émotion. C'est ça la photo.
Vous avez accepté de présider le jury des nuits photographiques de Pierre Vert, pour quelle raison ?
Parce que je suis ami avec le fondateur, avec Stéphane Kosman, et parce que quelque part dans mon métier, celui d'acteur, ce qu'on appelle le regard off, c'est-à-dire le regard de l'écoute, c'est quand l'autre parle, on l'écoute, et dans le bon cinéma, on fait un contre-champ sur celui qui écoute, et l'écoute est aussi importante, voire plus importante que celui qui parle. Et là, il y a un parallèle avec la photo. Le contre-champ, silencieux, c'est une photo.
Vous allez découvrir, je suppose, pas mal de photographes à Pierre Vert.
J'en ai découvert quelques-uns, j'ai vu des choses magnifiques. Vous l'aviez dit dans votre émission il y a quelques jours, ça va se batailler pour savoir quel est le meilleur. C'est vrai que c'est pas facile, mais comme toujours, il y a des tendances. Alors, on discute sur ça et là, mais globalement, c'est ça qu'il y a d'extraordinaire dans l'art, c'est qu'on va très vite, très très vite, au meilleur.
Dernière question très personnelle, est-ce que vous pratiquez la photo ?
J'ai beaucoup pratiqué la photo tant qu'on était en pellicule, et je me suis arrêté au numérique. Parce que pour maîtriser le numérique, l'appareil numérique, c'est très compliqué. Et j'aimais bien ce côté tirage, voilà. Tout le monde me dit d'ailleurs très souvent, depuis très longtemps, mais pourquoi tu fais pas de la mise en scène, t'as un regard et tout. Je dis oui, j'ai un regard, mais je suis pas Claude Sauté, je suis pas... voilà, metteur en scène, c'est encore autre chose. J'ai 2-3 photos de mon fils. Bon, alors c'est pareil, c'est un peu comme tout ce que je dis tout le temps. J'ai mon fils qui a 4 ans et demi, qui marche. Et il y a quelque chose de beau dans sa démarche. Voilà, c'est beau. Tout d'un coup, elle est belle et elle est en mouvement. Bien qu'elle soit arrêtée, elle est en mouvement. C'est paradoxal ce que je dis. C'est une photo en mouvement, mais elle est arrêtée. Mais il est en mouvement.
Et c'est signé Jean-Pierre Castaldi.
Et c'est signé Jean-Pierre Castaldi, elle est encadrée. J'ai une photo de ma fille aussi, Paola, qui est très très belle. J'ai 2-3 photos d'un grand metteur en scène qui s'appelle Chris Marker. Et j'ai quelques photos de mon fils Benjamin et moi, faites par Chris Marker. C'est pareil, c'est des moments... c'est pas la photo qu'on fait comme ça entre nous. Non, c'est il y a quelque chose d'autre, quoi.
Il y a quelque chose d'autre aussi chez Jean-Pierre Castaldi et on a découvert une facette de ce personnage qui donc photographie ses enfants comme tout un chacun et qui est fasciné par l'image de son fils que tout le monde connaît maintenant et qui là visiblement vole au lieu de marcher. C'est particulier, c'est particulier. Stéphane, on a dit qu'il était, il a fait une présence, c'était une présence remarquée et remarquable, mais il y a aussi Nathalie Clifford qui était présente en plateau chez nous et qui elle a un œil très très aiguisé sur la photo.
Tout à fait, puisqu'elle elle dirige 3 galeries, une à New York, une à Saint-Barth et une à Monaco. Et c'est elle qui fait le lien entre, je dirais, le public et l'artiste, ce qui n'est pas facile parce que les artistes ont besoin de leur tenir la main souvent et surtout ils ne savent pas se vendre. Donc Nathalie, elle aussi, comme je disais tout à l'heure, elle fait le job. Elle est très, 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 comment dirais-je, elle est très organisée. Elle relance tout le temps les clients potentiels et elle a un véritable œil sur la photographie, hein, puisqu'elle a réalisé des lectures de portfolio hier. Et surtout, Nathalie nous a amené Marco, puisqu'elle représente Marco. Et elle vend les images de Marco à travers le monde.
Marco Glaviano, qui est le parrain de cette édition et qui malheureusement ne peut pas être présent, mais qui sera présent tout à l'heure à 15h pour la leçon de photographie.
Tout à fait. Alors, on est resté sur le terme leçon de photographie, mais finalement, on ne l'aime pas trop. Mais bon, c'est maintenant ancré.
Ça devient une tradition. Donc.
Voilà, en fait, c'est plutôt un partage de... c'est un partage de sentiments sur sa carrière, pourquoi il est devenu photographe, comment ça s'est passé. On en a parlé, j'en ai parlé assez longuement avec lui hier soir. Il y a eu un groupe, dans les années, on va dire dans les années 70, il y a un groupe d'Européens qui sont allés à New York, je dirais, de Marchelier, Ben Simon, ça. Et puis dans ce groupe-là, il y avait un Italien et c'était Marco Glaviano. Et bon, il nous en parlera plus longuement cet après-midi, hein, c'est à 15h. Et Marco est est un des plus grands photographes de mode au monde, puisqu'il a fait des dizaines de couvertures de Vogue ou de Harper's Bazaar. Enfin voilà, c'est
un
vraiment
un grand monsieur. Il expose actuellement, il faut le rappeler, au Golf à Pierrevert. Et puis il expose aussi quelque chose qui nous a touché, tu t'en doutes, pour des hommes de radio que nous sommes. C'est évidemment des portraits de jazzmen avec une galerie à rêver, une galerie. Et puis sa projection aussi nous a fait rêver quand on voit B.B. King, Chet Baker, et puis tant d'autres qui sont là, et notamment Louis Armstrong avec sa bouille particulière, et Dizzy Gillespie par exemple. Enfin bref, c'est à voir en grand format, c'est au Golf de Pierrevert, avec aussi quelques photos de charme, un peu plus détendues on va dire, et c'est donc c'était un grand parrain, et c'est un grand parrain qui sera là tout à l'heure à 15h pour un entretien particulier sur son métier.
Tout à fait, et donc encore une fois hier soir il me disait, tu sais Stéphane, je ne fais pas beaucoup de compliments, je suis assez réservé, mais je dois dire que j'ai été surpris par la qualité de la projection. Et donc hier soir, il a fait un point d'honneur à revenir, à être à l'heure pour pouvoir voir la deuxième projection. Il me dit, je vois des choses différentes et ça me réconcilie quelque part avec la photographie où je suis un peu pas fatigué, mais bon, voilà, il était vraiment surpris, agréablement surpris.
Oui, et il était dans son élément en plus, franchement, et ça faisait plaisir.
Et donc ce soir, on a une deuxième partie, la deuxième partie de son travail qui est projetée, donc de la mode et un peu de nu aussi. Voilà.
C'est à voir, ce sera ce soir dans la projection. À voir aussi dans la projection, et tu le sais, c'est un petit coup de cœur de Fréquence Mistral, notre ami Louaï Barakat, qui ne peut pas être là, malheureusement, il est en Turquie. Il a été l'invité en résidence l'année dernière. Et puis, on peut dire que c'est quasiment une coproduction Fréquence Mistral, Les Nuits de Pierrevert, pour la première exposition de Louaï, qui était réfugié. Maintenant, il a son statut de réfugié syrien. Il a vécu le siège d'Alep pendant plusieurs années avec trois de ses camarades qui, malheureusement, aujourd'hui, sont tous décédés, âgés de 20 ans. Lui s'en est sorti. Il vit avec sa famille à Manosque. Il pourra pas être là ce soir, mais il a fait des photos, non pas du siège d'Alep ou de Manosque. Il est allé se promener les samedis à Paris dans le mois de novembre, décembre, il y avait quelques agitations, quelque chose d'un peu particulier, et il a trouvé que l'hiver en France était plutôt chaud. Et donc on va voir ces photos ce soir, et vous verrez, c'est vraiment une démarche à la fois sociale et puis évidemment artistique, parce qu'il a l'œil, quoi.
Tout à fait.
Il sera projeté avec évidemment d'autres personnes. Louaï ne sera pas là, mais par contre c'est Jacques Burlot, qui est un reporter de guerre en retraite, qui viendra parler un petit peu de la démarche de Louaï. Et Louaï s'excuse de ne pas être là, bien sûr, il le regrette profondément. Voilà, mes dernières invitées, sauf si Alain Licari nous fait l'honneur de sa présence, mais pour l'instant, c'est bien dommage, parce que j'aurais bien voulu parler de son travail sur le mur, mur entre le Mexico et le Mexique et les États-Unis.
Oui, on avait imaginé un dialogue avec Bernard Plossu, qui est à la Fondation Carzou. Et Bernard était aussi assez excité à l'idée de voir un travail récent sur cette région qu'il connaît bien. Donc on a vu le travail d'Alain hier soir qui a été projeté, un travail magnifique. Et c'est vrai que bon, ben voilà, il y a eu la buvette, il y a eu le vin.
Peut-être qu'un empêchement, mais il y aura certainement un mot d'excuse des parents. On verra bien comment ça se passe. Nous ont rejoint deux jeunes femmes qui font partie du HOF, et c'est d'ailleurs la responsable du HOF, c'est Emmanuelle Frutoso qui nous a rejoint. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour François.
Nous allons parler avec vous de ce festival très particulier, le HOF. Et puis à côté, il y a Laetitia Jean qui est à la fois photographe, modèle, instigatrice, enfin bref, collaboratrice. Tout ça dans le HOF. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Emmanuelle, pourquoi un HOF ici à Pierrevert ?
Parce qu'il a été naturel, tout simplement. On a, l'année dernière, pour la première fois, commencé à structurer un peu les photographes qui souhaitaient exposer au niveau local, au niveau du village. Et c'était déjà une première aventure. Et cette année, ça a pris une ampleur qu'on n'a pas forcément ni souhaité ni maîtrisé. On a simplement fédéré les énergies et les demandes qui nous arrivaient, donc avec la co-organisatrice, Stéphanie Besson, avec qui j'ai travaillé là-dessus. Voilà, tout nous est arrivé naturellement en termes d'informations, de demandes, de sollicitations, et on a juste eu à centraliser tout ça et à communiquer dessus.
Beaucoup d'artistes de Pierrevert, donc, qui vous ont rejoint.
Beaucoup d'artistes de Pierrevert, de Manosque, de Montfuron, voilà, des amateurs, certains professionnels. C'est libre, il n'y a pas de thème.
Et il y a même des personnes qui exposent chez elles, dans leur domicile.
Exactement.
Donc là, il y a un côté qui est particulièrement convivial et qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Enfin, c'est vraiment très pierrevardant, tout ça.
C'est très pierrevardant et un beau creuset.
Un beau creuset. Et puis malheureusement, il pleut. Et donc l'exposition des écuries du Riou, le centre équestre qui est à Pierrevert, a été décroché parce que sinon, elle prenait l'eau, c'était clair de le dire. Cette exposition, elle est très particulière parce qu'elle est très féminine quelque part. On voit un homme à un moment, de dos.
À la fin.
Oui. Mais ce sont des jeunes femmes de Pierrevert qui ont été à la fois modèles et puis en même temps photographes, qui ont travaillé avec Elmore également pour rajouter des petites fleurs un petit peu partout. Et ce sont des corps nus, dénudés, avec des petites fleurs posées au bon endroit la plupart du temps. C'est une exposition champêtre ou une exposition artistique? Comment la classer? Difficile ça, Emmanuel, hein?
Alors, difficile parce que c'est un collectif. Il y a effectivement toute l'exposition « Femmes en fleurs » de Laurie, qui était exposée à la galerie Plastic Art auparavant. Et ensuite, il y a eu les photos de Laetitia, ici présente.
Et elle va en parler dans un instant.
Elle va en parler, voilà. Et Delmore, avec qui, lors de sa résidence d'artiste, ici à Pierrevert, en juin, naturellement, on l'a accompagnée pour photographier des fleurs dans la nature. Et on s'est retrouvés le soir à la pleine lune, avec elle qui nous photographiait nus dans la nature. Donc on a dit, là, de nouveau, c'était naturel et spontané. On s'est laissé guider.
Sans craindre le loup-garou qui, chacun sait, est de sortie le soir de pleine lune.
Non, nous étions entre femmes, donc tranquille.
Et c'est une exposition qui est à la fois magique, parce que, bon, on vous sent dans votre élément, on vous sent décomplexé complètement, et en même temps, c'est beau à voir. C'est beau à regarder et puis on a l'impression de regarder plus les fleurs que les femmes, puis après plus les femmes que les fleurs, on sait plus très bien et en même temps c'est un peu ça qui est voulu. Laetitia Jean, vous avez participé vous des deux côtés de l'appareil photo.
Tout à fait.
Comment ça s'est passé, comment vous avez vécu cet instant?
Alors moi, déjà, c'est Emmanuel qui m'a permis de vivre une expérience fabuleuse, donc avec Elmore. Moi, c'était la première fois que je posais, que j'étais modèle. Et ça a été une expérience vraiment enrichissante et qui m'a permis de passer un cap aussi, moi, au niveau corporel, au niveau acceptation du corps. Et donc, c'était magique. Donc, j'étais enfin de l'autre côté, quoi, en tant que modèle. Alors que avant ça, en fait, j'ai photographié les femmes dans la nature. Et moi, c'est quand même, je mets une notion un peu plus profonde que une femme en fleurs ou une femme dans la nature, en fait. Parce que je voulais vraiment accompagner la femme dans son intimité la plus profonde, qu'elle se connecte vraiment à ses instincts. Il y a l'instinct primaire, quelque chose de très primaire. Et donc, je voulais qu'elle se reconnecte à ça et en même temps à sa nature sauvage. Voilà. Donc, j'ai accompagné les femmes, parce qu'au départ, j'ai accompagné les femmes, mais dans un processus chamanique. Et en fait, à partir de ça, m'est venue l'idée, en fait, de les photographier, de photographier cet instant magique, en fait, quand la femme se retrouve avec elle-même, vraiment, dans sa profondeur. Et donc, c'est tout un cheminement quand même très profond, et c'est pas juste une image d'une femme comme ça dans la nature.
C'est aussi une communion avec la nature.
C'est une communion totale, une harmonie totale. Et en fait, je ressens vraiment l'humilité qu'on peut avoir dans la nature. Et la puissance que la nature nous renvoie, en fait, et qui nous renvoie aussi à notre puissance à nous-mêmes et à notre vulnérabilité, notre humilité personnelle aussi.
Impossible d'imaginer cette exposition dans une autre galerie que dans un centre équestre en plein air.
Moi, je ne pouvais pas l'imaginer ailleurs qu'à l'extérieur, avec les arbres. En plus, on avait un arbre qui avait 200 ans, donc avec nous. Un autre qui était très, très vieux aussi. Et bon, moi, ma connexion aux arbres est très forte. Donc, je me voyais pas exposée ailleurs que dans la nature, en fait.
Avec des chevaux qui n'étaient pas très, très curieux quand même.
Les chevaux qui étaient sauvages.
Oui, voilà. Ils étaient un peu à côté de tout ça. Ou blasés, je sais pas. J'en sais rien.
D'ailleurs, notre hôte aussi a la même philosophie que nous, en fait, par rapport à ça. Donc, il élève ses chevaux vraiment dans leur côté sauvage et pas un peu moins domestiqué. Voilà.
Et le fait d'avoir exposé justement dans ce cadre-là et dans le cadre du HOF d'un festival où on a Marco Glaviano, où on a des tas de photographes réputés qui viennent, Bernard Plossu, ça veut dire quoi pour vous, ça? C'est quoi? C'est un honneur? C'est... ou c'est rien du tout?
Non, c'est vraiment un honneur. Et en même temps, je suis tellement amateur. Enfin, je débute à peine, vraiment à peine. Donc, moi, c'était vraiment le sens que j'y mets qui était important. Et la photographie, moi, pour moi, c'est une passion. J'aime photographier, mais j'avais pas les techniques. J'ai pas encore les techniques. Et je compte évoluer au fur et à mesure, mais en tout cas, je suis motivée par la, voilà, pour avancer dans la photo.
On sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur, donc ça c'est bien.
Et voilà.
Ça
c'est pas que de l'image.
Voilà. Ça se ressent quand on les voit justement, ces images. Emmanuel, l'année prochaine, le HOF, ça continue.
Alors l'année prochaine, bien sûr, le HOF continue. On reste avec Stéphanie disponible tout au long de l'année pour accueillir des propositions de lieux, des propositions de photographes. Les photographes peuvent arriver avec leurs lieux, les lieux avec leurs photographes. Peu importe, tout est possible en fait dans le HOF. C'est ça qui est chouette.
C'est une liberté importante.
Une grande liberté. Je voulais dire aussi que si l'exposition aux écuries du Riou, donc déjà, on va essayer de mettre, s'il ne pleut pas aujourd'hui, quelques photos sur chevalet au jardin, de façon à ce qu'il y en ait quelques-unes qui restent visibles aujourd'hui, demain, au centre
jardin
du
Jeannette,
village.
Donc juste au-dessus de la salle polyvalente.
Au côté d'Elmore, donc de toute façon, c'est des photos d'Elmore aussi. Après, sur le HOF de l'année prochaine, oui, bien sûr, voilà, on reste complètement disponible pour organiser cela. Et sur la suite de cette exposition balade autour de la femme naturelle et sauvage, on a fini par un homme. Parce que le projet de l'année prochaine, ça serait de travailler sur l'homme naturel et sauvage. Voilà. Nous, on a eu des choses à dire avec cette exposition cette année. La liberté d'être nu, qui rejoint quelque part la liberté d'être soi.
Donc, messieurs, il va falloir répondre à cette invitation.
Et à voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Voilà.
Et à exprimer par leur corps et par avec des petites fleurs aussi, pourquoi pas, on verra comme vous voulez. On vous sent un peu coquine quand même là sur ce dossier. On verra bien. Stéphane, ce HOF, c'est une richesse pour le festival parce qu'on sent qu'il y a de l'expression.
Oui, tout à fait. Je disais comme tout à l'heure, quand on en a parlé tout à l'heure, c'était une vision du départ que Pierre Vert devienne un village photographique. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de demandes directes ou indirectes de participation à la projection. Il y a un appel à candidature. Il y a un comité artistique avec trois personnes, François-Xavier, Frédéric et Souel. Il y a une exigence. Donc c'est vrai que parfois on dit, tu as un travail qui est correct, mais tu n'es pas encore au niveau de la projection ou au niveau d'exposé. Donc, le fait qu'il y ait un HOF, ça permet à des personnes qui sont en devenir de pouvoir quand même exposer.
Et de se roder quelque part.
C'est de se roder et puis surtout de se montrer, c'est montrer un travail, c'est se mettre à nu. Là,
c'est le cas de le dire.
Ouais, c'est le cas de le dire, mais, et puis après, il faut accepter, qu'on parle, il faut accepter la critique, voilà, d'accepter qu'on dise, ton travail, il est pas terrible, en fait. Et ça, c'est pas évident. Et c'est le quotidien, par contre, c'est le quotidien de tous ces jeunes photographes et d'autres photographes aussi plus âgés, mais il faut l'accepter, cette critique.
On rappelle que les nuits photographiques de Pierre Vert, parmi tous les photographes invités, quasiment la moitié sont des jeunes photographes, même plus.
C'était aussi une vision de départ pour François-Xavier et moi-même, on l'a vécu, montrer un travail, aller dans une rédaction, vouloir... déjà pour avoir un rendez-vous avec Vogue ou peu importe quel magazine, moi je voulais être photographe de mode, on a réussi à avoir le rendez-vous et puis après on attend, on espère beaucoup, puis on se trouve en face d'une personne qui regarde votre dossier comme ça et puis en même temps qui répond à son téléphone, qui dit ah bah tiens tu vas me faire des photocopies, tiens machin, là. Non, là ici les jeunes photographes ont une vraie visibilité. Ça, c'est très important. Et puis après, il y a des photographes qui sont plus âgés et qui n'ont pas eu l'envie de se mettre en avant et qu'on va aller chercher parce qu'on dit « Ouais, mais t'as quand même un super boulot, il faut le partager avec les autres. »
Et ils sont très gourmands des relations qu'ils peuvent avoir avec des jeunes photographes qui les connaissent ou qui ne les connaissent pas et avec qui ils entretiennent des bons contacts. Hein,
moi, je me rappelle la première année, on avait un jeune photographe, je crois que c'était Thibaut, qui est allé chercher Sabine Weiss à la gare. Donc Thibaut, une fois que Sabine sera partie, il pourra dire « j'ai eu un moment privilégié avec Sabine Weiss ». Toutes les personnes qu'ont rencontré Peter Knapp, que je salue, que j'ai eu au téléphone hier et qui est vraiment désolé de pas être avec nous pour des raisons, on va dire, son épouse est vraiment pas au top. Il y a toute cette génération aussi de photographes qui sont venus sur les 10 premières années pour en dire, j'étais avec Peter Knapp ou j'étais avec Oliviero Toscani. C'est pas rien.
Et à qui tu le dis, puisque c'est moi qui ai l'honneur de chaque année de pouvoir faire parler un Toscani ou un Peter Knapp ou un Bernard Plossu ici sur un plateau, c'est toujours un bonheur pour moi parce que on parle d'image sans image aussi. C'est ça aussi le pari de cette émission et qui arrive à sa conclusion. C'est déjà la fin.
Oui, alors je remercierai encore une fois toute l'équipe des Nuits Photographiques. Il y a une équipe qui travaille toute l'année sur le festival, parce que là on va se donner un mois de repos, on va dire, et puis on pensera déjà à l'édition prochaine. Il y a aussi une équipe de bénévoles qui vient pendant le festival, qui il y a certaines personnes qui prennent des congés pour venir nous filer un coup de main. Je remercierai aussi ma maman qui a véhiculé et parti avec elle mort dans les lavandes pour faire des photos. Je soulignerai aussi, on a oublié un des membres fondateurs, Henri Cartman, qui expose à Fort Calquier, 50 ans de photographie, c'est pas rien non plus.
Ce sera au mois d'août, on aura l'occasion d'en reparler.
On aura l'occasion d'en reparler. Oui.
Voilà. Écoute, c'est une belle chose, et puis c'est vrai que ce festival contribue à embellir la vie et à faire que ce monde est un peu plus beau, un petit peu comme à la manière dont chantait Satchmo à une certaine période. Et donc, comme j'ai parlé de Louis Armstrong tout à l'heure, on va se quitter en écoutant What a Wonderful World.
Merci. Ça te va ? Ouais, super. Hein ?
Satchmo, et à l'année prochaine, ici même à Pierre Vert. Profitez encore de ces deux dernières journées à Pierre Vert, dimanche et puis cet après-midi, la leçon notamment de photographie. Le rendez-vous avec Sandra Rinsley tout à l'heure à 17h ici même. Les projections ce soir.
20h30 et 22h.
Évidemment, c'est les heures qu'il fallait dire tout à l'heure.
Voilà.
Et donc maintenant, c'est fait. J'en profite aussi pour remercier mon équipe à côté, Manu et Olivier. Et puis bien sûr, toute ton équipe, Stéphane, qui nous accueille chaque année ici à bras ouverts. Et les Pierre Vardan dans leur ensemble. Qui j'ai oublié ? Oui, Dieu peut-être là-dedans, mais enfin bon, il n'a rien à faire ici de toute manière. Nous sommes une radio laïque. Merci à tous et quel beau monde. Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.